pipelines. Pendant la course à la chefferie, il a promis des pipelines. Ce que veut l'Alberta à la fin de l'exercice, est-ce que tu sais présentement, Philippe, que plus de 95% du pétrole albertain est vendu aux États-Unis? Pourquoi? Ben, parce qu'ils n'ont pas accès au marché pour pouvoir le vendre aux Européens et aux Asiatiques.
Parce qu'ils n'ont pas de pipeline.
Voilà, il n'y a pas une courroie de transmission. Donc, il y a présentement un certain niveau d'acceptabilité politique à l'intérieur du Conseil de la Fédération. Et même pour le Québec, est-ce que tu savais, Philippe, que le Québec continue d'importer du pétrole par bateau, principalement par le port de Québec et le port de Montréal? Les fournisseurs sont les États-Unis, parce que le pétrole canadien se rend aux États-Unis et retourne au Québec. Mais aussi, malgré le fait que ça a nettement diminué, le Québec doit acheter son pétrole de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, du Nigeria, de la Norvège.
Il y en a encore beaucoup?
Non, c'est en train de diminuer, mais il y en a. Et le point est le suivant. 100% du pétrole que le Québec a besoin, que les Québécois ont besoin pour mettre de l'essence dans leurs autos, pour chauffer leur maison dans certains cas, pour être 100% canadien. Présentement, le défi du gouvernement albertain, ils nous regardent de loin et ils disent comment est-ce qu'on peut s'adresser aux Québécois? Parce que eux, ce qu'ils voient, c'est que c'est zéro tolérance pour des pipelines. Ils veulent avoir une conversation, même au point où, comme tu sais, il y a des raffineries au Québec, une à Montréal, une à Lévis. Les raffineries, ça veut aussi dire du développement économique. Ça veut dire de l'argent pour le Québec. Donc, j'espère que le premier ministre Legault va prendre cette demande au sérieux. Et j'espère, comme je l'ai dit il y a plusieurs mois, que pour une fois, on peut avoir une conversation au lieu de crier des deux bords. Un bord qui dit pipeline à tout prix, l'autre bord qui dit pipeline jamais de la vie.
Est-ce que Mme Smith, la première ministre de l'Alberta, est devenue souverainiste?
La réponse à ça, c'est non. Et soyons clairs, nets là-dessus. Danielle Smith n'est pas une souverainiste, mais elle est claire. Si Ottawa n'écoute pas, un référendum sur la souveraineté de l'Alberta n'est pas exclu. Donc, présentement, ce que nous voyons, c'est que 30 à 40% des Albertains se disent ouverts à l'idée d'une séparation. Pas parce qu'ils veulent rompre, mais parce qu'ils veulent mettre un peu de pression sur Ottawa. Imagine si Ottawa avait fait échec et mat sur quoi que ce soit pour le développement du Québec, que ce soit l'hydroélectricité, par exemple.
Mm. D'un autre côté, si l'Alberta devenait souveraine, je vois mal comment elle pourrait développer des pipelines qui mèneraient vers l'océan Atlantique ou, dans une moindre mesure, vers l'océan Pacifique aussi, là.
Oui, mais à ce point-là, il n'aurait plus de réglementation de dire qu'il y a un cap sur la production du pétrole. Il pourrait en produire davantage sans être bloqué à Ottawa. Il pourrait raffiner davantage au lieu de le vendre à rabais aux Américains et s'enrichir davantage.
OK. J'aimerais en terminer qu'on parle du Bloc québécois. Le Bloc a annoncé aujourd'hui que ses députés n'assisteraient pas au discours du trône là, que prononcera le roi Charles.
Je vais conclure en blague en partie parce que j'ai beaucoup d'amis bloquistes. Le paradoxe est le suivant. Ils refusent d'écouter le discours du trône prononcé par le roi Charles III, mais ils vont prêter serment au roi Charles III, comme bien sûr l'exige la loi pour siéger à la Chambre des communes. En passant, le discours du trône n'est pas livré à la Chambre des communes. Le discours du trône est livré au Sénat. Les députés n'ont pas accès au Sénat. Il y a une barre qui les empêche de rentrer sur le parquet du Sénat, mais certains, beaucoup de députés, choisissent de faire prendre une marche entre la Chambre des communes et le Sénat pour aller regarder de l'extérieur du Sénat. Je comprends ce que le Bloc veut faire, c'est-à-dire envoyer un message.
Ouais, et de toute façon, prêter serment sont un peu obligés s'ils veulent faire leur job de député, alors qu'à ce du trône, ils sont pas obligés.
C'est ça. Comme j'ai dit, comme la loi l'exige afin de pouvoir siéger.
Merci beaucoup, Dimitri.
Salut, Philippe.
On se retrouve demain. Valérie Beaudoin est là. Au revoir.
98.5. Circulation. Autoroute des Laurentides, direction sud, véhicule en panne, voie de droite, début du pont de la rivière des Prairies, en direction nord du Souvenir, 13 sud, un peu avant Hickmoire, 13 nord. On est presque à Hickmoire et avant la 640, 25 Terrebonne dans le secteur de Pinneuf. Descaries-Nord, on affiche presque complet. Pont Samuel-Champlain de la Vérendrye, tunnel La Fontaine, on est revenu à Yves-Prévost avec un 60 minutes, c'est avant de Mortagne en direction de Montréal. Pont Mercier, le problème, c'est en direction de Montréal, c'est plus de 40 minutes avec ce camion en panne. Pont Charles-de-Gaulle, c'est un peu passé à Bourget, ça va très bien pour le métro. Il existe des traitements d'ordonnance contre la COVID-19 légère à modérée. Demandez à votre pharmacien ou médecin quels sont les risques de maladies sévères, surtout après 60 ans.
Les rabais de la circulaire de mai sont arrivés chez Mondou. Épargnez jusqu'à 8 $ sur les moyens et gros formats de nourriture sèche ProPlan pour chats et chiens. D'ici le 14 mai, passez en magasin pour d'autres offres incroyables ou consultez lemondou.com.
Chérie, as-tu vu le lac que la pluie vient de faire dans le cours?
Encore? Au moins, l'eau n'est pas entrée dans le sous-sol comme la semaine passée.
Une chance. Je te dis que ça ne me tentait pas de revivre ça une autre fois.
Et ça commence à pu avoir d'allure, toute cette pluie-là.
Tu dis?
Au Québec, la météo extrême fait de plus en plus partie de notre quotidien. Et nous en payons tous le prix. L'industrie de l'assurance travaille activement à protéger ce que vous chérissez, à vous rétablir après un sinistre et à nous adapter collectivement à cette nouvelle réalité. Détails à bac-québec.qc.ca.
Bon mercredi, c'est Mylène Ledoux en direct pour Loto-Québec. Mercredi, soir de tirage du Loto 649. Vous avez jusqu'à 22h30 pour acheter votre billet. La boule d'or vaut 60 millions. Elle a une chance sur cinq de sortir. Avec le contexte économique présentement, il y en a plusieurs qui sont stressés. Gagner 60 millions, adieu le stress! Seul ou en groupe, pensez à acheter votre billet en magasin ou en ligne. Et Loto-Québec vous souhaite la meilleure des chances.
Pour la fête des mères, offrez-lui plus qu'un cadeau. Offrez-lui un moment de vraie déconnexion. Un instant de calme, loin des écrans. Pour ralentir, pour respirer, pour se retrouver. Réservez son expérience au scandinave.com.
Salut, moi c'est Sandra, puis ma demande spéciale, c'est Mike chez Rona.
Allô? Allô, oui, tu sais la toune dans la pub de Mike chez Rona? Pouvez-vous la faire jouer?
Hey, moi puis les gars du chantier, on aimerait bien entendre le hit du printemps. Mike chez Rona.
Quand le printemps arrive, tu te dis, c'est parti. Cette année, on fait le passion, on va voir
Cet article est-il toujours disponible? J'ai répondu oui, 53 fois.
L'acheteuse a scratché ma télé en la mettant dans son char. Elle m'a demandé un rabais.
En venant essayer ma paire de jeans, la fille m'a raconté sa colonoscopie. Les jeans lui faisaient pas.
La fille qui voulait mon lave-vaisselle a fini par se pointer. En bixi.
C'est pas toujours facile de vendre, mais avec 70 points de collecte partout au Québec, c'est toujours facile de donner à Renaissance.
Clôture Prestige, le maître de la clôture au Québec. Soumission gratuite en moins de 48 heures pour vous offrir qualité et sécurité absolue. Clôture Prestige, fier partenaire de Fiberwood, votre spécialiste en composite.
Pour tout suivre en direct.
Pour ne rien manquer lors de vos déplacements,
téléchargez l'application Cogeco Média.
Cogeco Média. 98.5.
Politique américaine. Avec Valérie Beaudoin.
Valérie, l'ancien président américain Joe Biden a accordé sa première grande entrevue.
Oui, première grande entrevue au réseau BBC. Alors, il y avait un angle aussi de fin de la Deuxième Guerre mondiale. On soulignait ça, on disait que Joe Biden, c'était le seul président toujours vivant qui a connu, mais il était tout petit, là, mais la Deuxième Guerre mondiale, qui était vivant au moment où avait lieu la Deuxième Guerre mondiale. Il est né en 1942. Alors, il y avait c'était très axé sur la relation avec l'Europe, la relation avec l'OTAN. Bien sûr, c'est la BBC. Alors, on parle justement des gens en Angleterre, mais bon, on s'entend que ça concerne le monde entier. L'OTAN, l'importance des alliances d'autrefois. On a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup de la Russie. Il a dit, l'avantage d'être vieux, il dit, c'est le suivant. Il dit, moi, là, ça fait 30 ans que je rencontre personnellement tous les dirigeants importants de la planète. Là, toutes les puissances, là, je les ai rencontrées. Là, que ce soit en Russie, que ce soit en Europe, en Asie, ailleurs, parce qu'on se rappelle qu'il a été aussi, lorsqu'il était sénateur sur le comité de politique étrangère des relations internationales, il a été été vice-président sous Barack Obama et bien sûr président des États-Unis. Il dit, alors j'ai quand même, je pense, une perspective avec un pas de recul. Et là, ce qu'on fait avec la Russie, c'est qu'on est en train de lui donner un cadeau. On est en train vraiment d'avoir de ne pas prendre la bonne décision. Ce qu'on fait avec l'Ukraine, le fait qu'on affaiblit les organisations internationales. Il a commenté aussi la fameuse rencontre entre Zelensky et Trump. Là, sur l'image, il avait presque l'air de dormir, mais c'est parce qu'il réfléchissait à dire comment je réponds à ça, à cette scène qu'on a vue à la fin du mois de février. Et il a dit aussi que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on est dans le moment de l'histoire où la démocratie est le plus en danger. Et que les États-Unis, avec leurs décisions, ne prennent pas, n'aident pas la situation. Je vais dire ça ainsi. Parler des 100 jours de Trump. Il a parlé du fait que là, il voyait pas de grande réussite. Et il a parlé, bien sûr, de son abandon de la course. Est-ce que vous regrettez? Est-ce que vous êtes parti peut-être trop tard? Les gens vous le reprochent. Et là, il hésitait, puis il a dit, ben écoutez, je pense pas que ça aurait changé quelque chose. Je pense qu'on aurait eu quand même la victoire de Trump. C'est ce qu'il a dit. Mais on sentait quand même de l'amertume dans sa voix. Et je vais vous faire entendre Donald Trump, mon Dieu,
Lapsus.
Joe Biden, juste pour faire entendre aussi sa voix, je trouve qu'il a encore pris un petit coup de vieux. On le sait que c'était déjà très faible, sa voix. Mais il parle quand même, c'est intéressant dans l'extrait, vous allez l'entendre, il parle du fait que, comment ça, un président américain parle du Golfe de l'Amérique, du Groenland, du Canada. On écoute Joe Biden.
The way we talk about now that, it's just the Gulf of America. Maybe we're going to have to take back Panama. Maybe we need to acquire Greenland. Maybe Canada should be a fit. What the hell's going on here? What president ever talks like that?
Il dit, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Quel président peut parler comme ça?
Oui, puis c'était quand même des attaques assez directes à Donald Trump. Ça aussi, c'est particulier. Juste pour expliquer aux gens...
Mais on peut pas
dire
que Trump se gêne trop à l'endroit de Joe Biden. C'est jour après jour, il rappelle que c'est le pire président de l'histoire des États-Unis. Là.
Mais il y a toujours cette espèce de devoir de retenue qu'on a. Barack Obama, même quand Donald Trump est devenu président la première fois, c'était très rare. Hein? Et même Biden, de temps en temps, il l'appelait « this guy ». Il voulait pas le nommer.
Vrai.
C'était moins frontal. Et là, dans cette entrevue-là, on était très direct. Hein. C'était vraiment ciblé sur Donald Trump. Est-ce que, comme tu as raison, tu as tout à fait raison de dire, Donald Trump est tellement en mode attaque envers Biden qu'il se dit peut-être, ben écoute, moi, j'ai rien à perdre. Oui, d'habitude, il y a une espèce de décorum autour des présidents, mais est-ce que je l'ai? Est-ce que j'ai le droit à ce décorum-là depuis toujours? La réponse est non. Alors ça, c'est l'entrevue. Et il va donner une entrevue à ABC News aussi ce jeudi. Alors, il est en mode tournée. Il a aussi signé avec une agence pour faire des conférences et tout ça. Alors, le classique politicien qui écrit des livres, qui fait des conférences. Il est aussi dans une agence, on verra ce qu'il va faire.
Moi, je pense que c'est une bonne affaire qu'il reprenne un rôle public, mettre un peu de pression sur Trump. Il va en mettre parce qu'on reproche beaucoup aux démocrates d'être très, très silencieux depuis que Trump est arrivé au pouvoir, alors de voir l'ancien président s'exprimer. Il me semble que c'est une bonne chose.
Oui.
Il parle du Groenland dans l'entrevue et là, on a appris que c'est pas des blagues. Les États-Unis, là, ils sont rendus qu'ils espionnent le Groenland.
Oui, c'est une bombe du Wall Street Journal qui est sortie hier, si je me trompe pas, assez tard. On dit que c'est un document, on a mis la main sur un document, Tulsi Gabbard qui s'occupe justement des agences de renseignement, un autre personnage controversé, mais ce sera pour une autre chronique, pour les gens qui s'intéressent un peu à elle. On a demandé d'espionner. En fait, oui, on utilise des images satellites et tout ça, mais c'est surtout pour savoir, OK, quelle personne dans la population, dans des postes influents serait pro-annexion par les États-Unis? Qui on peut aller chercher? Hein? Qui sont nos intérêts sur place au Groenland? Je rappelle qu'il y a quand même une population très petite. On est moins de 100 000 habitants là, et que la plupart du Groenland, c'est glacé. Mais bien sûr, c'est pour les ressources qu'on veut ça. On dit pour des raisons stratégiques. Et là, on a dit, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens qu'il y ait des fuites. C'est pas patriotique. Alors, on n'est pas en train de dire que c'est pas vrai qu'il y a de l'espionnage. Et je rappelle que le Groenland, c'est un territoire autonome du Danemark. Le Danemark fait partie de quoi? De l'OTAN. Alors, on est en train d'espionner aussi sur un allié. Est-ce que tu vas me dire peut-être, c'est pas la première fois que des alliés s'espionnent entre eux.
Non.
Hein? On a eu des cas dans les dernières années très médiatisées.
Les Américains écoutaient les conversations téléphoniques d'Angela Merkel quand elle était chancelière de l'Allemagne.
Alors, c'est pas la première fois, c'est peut-être pas ça le scandale, mais dans un contexte où il y a cette peur d'annexion et où Donald Trump a encore refusé de dire que d'utiliser l'armée, la force militaire pour annexer le Groenland n'était pas une possibilité, mais ça reste toujours avec quand même cette inquiétude. Et là, on sait que le Danemark a demandé à l'ambassadeur américain de venir lui parler pour pour rendre des comptes par rapport à tout ça. Alors, peut-être une petite escalade aussi à venir avec cette situation.
OK. Et puis, on va parler de cette situation extrêmement problématique là, entre l'Inde et le Pakistan. Ce sont deux puissances nucléaires. Le conflit a éclaté en début de semaine et là, ça s'envenime.
Oui, puis il y avait des tensions depuis un bon moment. On s'en est parlé très, très brièvement hier parce qu'il y avait eu un attentat terroriste qui avait fait 26 morts qui ciblait des Indiens, justement, dans le Cachemire indien parce que c'est un territoire qui est contesté. Hein. Le Pakistan voudrait avoir le contrôle du Cachemire, l'Inde aussi, puis il y a une partie qui appartient à la Chine. Et là, il y a eu des morts, 26 morts, je viens de le dire, et on dit que le Pakistan est derrière ces attaques-là, qu'ils ont d'accord avec les groupes terroristes qui ont fait ces attaques-là, qui ont revendiqué les attaques. Alors, il y a eu des frappes qui ont eu lieu. L'Inde a frappé des cibles au Pakistan. On disait que c'est des cibles terroristes. Finalement, dans la version du Pakistan, il y a eu des civils qui ont été tués. Il y avait d'autres cibles. Le Pakistan, qui veut aussi répliquer, on a abattu des avions indiens, des chasseurs, entre autres. On n'a pas le même nombre de part et d'autre de combien d'avions ont été abattus. Il y a une escalade comme ça, et c'est ça qui est inquiétant, parce que ces deux puissances nucléaires, c'est toujours une zone de tension. Mais là, c'est la première fois, dit-on, qu'en 20 ans, on a une escalade